Bon, alors maintenant, on voudrait peut-être passer à un film pour beaucoup plus tardif, je crois, 95, coûte que coûte,
Ouais.
c'est l'histoire d'une petite entreprise, etc., etc.
Oui.
Vous pouvez dire deux mots sur pourquoi ce film, le choix. C'est une question on y reviendra souvent sur le choix des sujets. Qu'est-ce qui vous amène à choisir un sujet?
Mais
Comment vous
là, en
rencontrez
fait,
le...
comme je vous l'ai dit, là, les trois courts-métrages que j'avais fait en Super 8, c'était pas des portraits de personnes, enfin, c'était des personnes par rapport à l'argent. Et donc, cette idée me continuait à m'intéresser. J'avais en fait un projet plus vaste de différentes histoires et de différents cas, comme ça, vu du côté de l'argent. Et donc, parmi ces histoires, il y en avait plusieurs, il y avait donc cet homme qui était devenu directeur d'une petite entreprise qu'il venait de fonder, que je connaissais bien, qui s'appelait Djihad, et qui venait d'ouvrir donc toute petite boîte une petite boîte de plats cuisinés. Moi, j'avais. Alors, c'est toujours la même chose. À la fois, j'ai une idée, disons, générale, sociale et tout ça, qui est l'argent, la naissance d'une entreprise. Je suis allée le voir pendant l'été et j'ai reconnu beaucoup de choses que je connaissais d'une entreprise de cinéma. La passion, la précarité, la difficulté, le rapport. Compliqué avec les fournisseurs, l'argent, etc. Et en même temps, là, ça se passait à Nice, enfin dans la zone industrielle à côté de Nice, avec un patron tunisien, des employés marocains, tunisiens et français. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très beau, d'une espèce de presque militantisme capitaliste, on pourrait dire quoi, vouloir faire sa boîte, vouloir gagner sa vie, être digne, gagner dignement sa vie, surtout quand on est immigré ou fils d'émigré. Voilà. Et que Nice était, disons, un endroit particulièrement. Comment dire? Peu amène. Pour ça, enfin, qu'il y avait quelque chose d'extrêmement moderne dans ce rapport entre cette petite entreprise de plats cuisinés, la zone industrielle de Saint-Laurent-du-Var et la réalité apparente et l'apparence de Nice, le tourisme, le côté voilà paillettes de la Côte d'Azur, le côté aussi frontière, le côté voilà j'aimais tout ça dans ce projet. Et voilà, donc j'ai fait des petits repérages très rapides de 2 jours au début, toute seule en vidéo, et je me suis rendu compte que en vidéo, ça serait pas bien du tout, quoi. Qu'il fallait que je tourne en film et que je ne sois pas seule, à l'inverse des patients. Qu'il fallait que les gens que je filme, que ce soit les employés ou le patron, aient une très forte conscience de quand je filmais, de quand j'étais là, que ça allait se voir après et tout. Parce que sûrement, s'il y a des gens ici qui font des films, ils connaissent ça. C'est-à-dire que je pouvais filmer, mais tout le monde pensait que je faisais un film. Enfin, c'est très important d'avoir l'air d'un idiot un peu quand on fait un film, c'est-à-dire de quelqu'un de pas si important que ça, qu'on n'a pas l'impression que c'est la police ou le juge de paix ou le juge qui vient faire le film. Mais en même temps, parfois, quand on est considéré comme faisant partie de la famille, il y a une manière dont les gens résistent au film, c'est qu'ils parlent à demi-mot, qu'ils parlent Il parle sans que ça soit porté sur une scène. Et Et c'est très important de les amener à être des acteurs normaux de leur vie, mais à ce qu'ils aient conscience du fait qu'ils jouent, enfin qu'ils sont filmés, qu'ils racontent quelque chose, même s'ils ne parlent pas du tout à la caméra, mais qu'ils ne font pas les choses par en dessous. C'est tout simplement de la timidité, souvent, hein, de parler à demi-mot, de ne pas oser, etc. Mais donc, je me suis dit, il faut absolument que, comme j'étais une femme, il y avait une femme et quatre hommes, cinq, parfois six, et qu'il fallait que je sois accompagnée au moins d'un autre homme, voire de deux, pour que tout d'un coup, ils comprennent que c'était... que c'était sérieux et que, comme il y avait quand même, évidemment, c'était moi, j'arrivais par le patron, que c'est le film est fait entre la cuisine et le bureau, quoi. C'était il fallait aussi que chacun sache que l'autre partie verrait, même si parfois c'est le patron dans la cuisine ou les cuisiniers dans le bureau, mais que quand je filmais que les cuisiniers dans la cuisine ou que le patron dans le bureau, dans la vie, on peut parler sans penser que les autres vont vous voir, quoi. Et donc, le fait que, en tournant en pellicule, bon, je voulais tourner en pellicule aussi pour d'autres raisons, mais je voulais absolument que tout le monde ait conscience que j'étais en train de filmer. Et j'étais sûre que ça allait être bien mieux pour le film que si j'avais été une petite souris, quoi. C'était juste exactement le contraire, quoi. Voilà. Et j'ai choisi de tourner en pellicule parce que j'avais l'impression que... je voulais que ce lieu, enfin, que ces personnes soient magnifiées par la pellicule, que ce soit des héros de cinéma, parce que j'avais l'impression que se battre pour qu'une entreprise existe, se battre pour son travail, appelait une mythologie de film noir, que le patron se sentait comme un type dans un film noir qui se... Voilà, et que quand il va à la banque, quand il faut qu'il ait ramené l'argent, etc., c'était toujours quelque chose qui avait à voir avec, non pas le banditisme sur le plan légal, mais sur l'héroïsme. Et donc, c'est pour ça que je voulais tourner en pellicule, pour que le film soit en pellicule projetée et qu'il y ait le plus possible cette idée du polar, quoi. Parce que le suspense, le manque d'argent, le fait de continuer, etc., avait beaucoup à voir avec le polar, quoi. Et par exemple, voilà, à ce moment-là, je lisais que Godard disait que le seul travail qui était correctement filmé au cinéma, c'était celui des voyous, quoi. Ou celui que d'une certaine manière, le banditisme, etc., c'est une façon de filmer le travail. Parce que le travail, c'est pas facile à filmer en fiction. C'est presque impossible, quoi. Alors là, bon, moi, j'étais pas en fiction. Mais je voulais que... Et du coup, je voulais donc cette dimension cinématographique. Parce que mon impression aussi, quand je voyais le patron, c'était de me dire qu'il me faisait penser à un héros de film noir. Et je me disais, Al Pacino, par exemple, et je me disais, mais les gens, je vais leur montrer le réel du personnage d'Al Pacino. Et c'est pas sûr que ça les fasse autant rêver que Scarface ou voilà. Mais c'était cette idée de voir le réel du personnage mythique, comme ça. Et puis, évidemment, donc, dans la façon de filmer, et je n'avais que des bobines de 10 minutes, ce qui était déjà beaucoup de tourner 10 minutes d'un coup. Moi, je savais que ça coûtait tant, chaque fois que je tournais 10 minutes. Et donc, il y a une façon de concentrer le récit, alors que je ne sais pas ce qui va se passer, mais je filmais tout le temps comme, pour ce que je n'avais pas pu voir. Voilà. J'essayais de faire des séquences et des plans qui racontaient ce que je n'avais pas vu, ce qui s'était passé quand je n'étais pas là. Voilà. Et sinon, comme je ne voulais pas, mais ça je l'ai déjà dit, donc comme je ne voulais pas tourner tous les jours éternellement, que je ne pouvais pas, que je n'avais pas les moyens de ça, ni en temps, ni en argent, j'ai choisi de faire la chronique de cette entreprise, dont je pensais que je la prenais très au début. J'avais imaginé plusieurs scénarios possibles, de son épanouissement à son effondrement, en passant par d'autres choses. Et je me disais, comment faire pour filmer cette chronique ? Et j'ai choisi, après avoir tourné une fois, à la fin du mois de décembre, je me suis rendu compte que tourner à la fin du mois, c'était la bonne solution. C'est-à-dire qu'il fallait tourner quand il était obligé de payer. Quand il fallait payer les salaires, les fournisseurs, quand les échéances tombaient, quoi. Que ça faisait donc un certain rapport à la parole et qu'on pouvait plus, il ne pouvait plus emmener tout le monde en bateau. La banque, les fournisseurs, les salariés, etc. Il y avait une semaine où il fallait que les mots soient suivis d'actes, d'une manière ou d'une autre. Donc j'ai choisi, comme ça, de tourner les fins de mois. Voilà.
Bon, je crois que ça serait bien de voir tout de suite une séquence.
Oui, absolument. Hein.
À l'entrée de Saint-Laurent-du-Var. Vous savez, vous prenez sur la droite comme pour aller à Cap 3000. Vous connaissez ? Alors, au lieu de tourner à gauche pour aller à Cap 3000, vous tournez à droite, vous passez sous le pont. Voilà, vous allez tout droit et vous arrivez à côté de la gare. Vous prenez la première à droite, c'est indiqué zone industrielle, hein, partout. Voilà. Prenez la première à droite, après vous allez tout droit, tout droit, tout droit. C'est toujours indiqué zone industrielle, vous prenez toujours à droite. Vous passez, si mes souvenirs sont bons, 4 ronds-points. Oui, 4 ronds-points, mais c'est toujours tout droit, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est bien indiqué. Hein. Et vous arrivez au début de la zone industrielle, c'est la zone A. Vous avez l'adresse exacte ? Alors, 27 allée des Métallos.
Pas de me parler de rentabilité. Là, il s'agit de gagner un marché. Tant pis si on perd même 2000 balles aujourd'hui. Moi, ce labo, il faut qu'on le gagne. Ça sera 9500 balles par mois.
Oui.
Hein ? 9500 francs pour une part de rentabilité, lui. Mais on achète 4 lapins, même si c'est nécessaire pour aujourd'hui. Parce qu'il me dit, un lapin pour 2 personnes, c'est pas rentable. Il s'agit de gagner un marché, c'est du commerce. Moi, je fais du commerce, on gagne un marché, c'est tout. Et après, on discutera de rentabilité. Qu'est-ce que c'est, ces histoires ? 9500 francs ici ? Un labo comme ça, c'est 9500. Deux inters, vous vous tuez du matin au soir, c'est 10 000 francs. Alors soyez gentil, je veux dire. Il y a des moments où il faut perdre du fric pour en gagner. Voilà.
Ouais, mais enfin, dans le fond, il faut. Pour un essai, ça va, mais il faut pas qu'ils prennent tous les jours comme ça.
Mais pas du tout. Il faut gagner, il faut prendre la place de. Comment ça s'appelle ? Le régal, je sais plus quoi. Une fois qu'on a pris sa place, tu as passé le mec. Et après, une fois que tu as gagné le marché, c'est réglé. C'est pour ça qu'on en prend depuis. Mais là, il faut que j'aille à la banque sans faire perdre de temps au type, c'est ça le problème.
C'est-à-dire ?
Il faudrait qu'il soit de retour assez rapidement ici.
Qui est celui qui te conduit ?
Ouais, le livreur, non, le chauffeur.
Parce que toi, tu peux pas conduire.
Ouais, non, je n'ai pas de permis.
J'avais plus la marche, j'étais nerveux.
Non, elle a, on a moins d'un an, donc on n'a pas droit à un débit. Et à partir de là,
le
banquier, ouais, de la banque, le banquier m'autorise du 1er au 29 un débit. Mais après, je le couvre. Et là, je veux dire, ça va barder. Hein, il veut pas. Hein.
Et là, tu vas chercher quoi à la banque?
Ah, mais il faut absolument qu'il me le donne, le fric. Lui, il veut pas me le donner. Moi, il faut absolument que je l'ai. Hein.
Mais c'est pour qui cet argent?
Pour les employés, comme complément de salaire. Tiens, ça c'est pour toi, Ebardia. Et le reste, c'est Marty. Appelle-le, on va arriver. Toi, je compte sur toi, hein. Tu bosses. Hein.
Oui, bah, je fais quoi? Je m'amuse.
Ouais, c'est ça. Ça va, c'est bon, les factures, tout. Ouais, Fatri est responsable de production, c'est 14 000 balles par mois. Toi, 12 000 balles. Et Madani, 11 000 balles. J'avais prévu ça pour mardi. Il m'a filé quand même 1 000 balles pour chacun de vous. Hein. Mais il m'a dit, moi, tu m'emmerdes maintenant. Tu vas te prendre un prêt, tu vas aller au Crédit Lyonnais, tu dégages, quoi. Donc, votre empressement, je comprends que vous n'ayez pas de l'argent pour... Vous avez reçu 5 000 francs ce mois-ci. Le mois dernier, combien vous avez reçu?
6 000.
Et le mois d'avant? 7 000. Ça. Donc tous les mois, vous avez reçu votre salaire normalement. Au mois d'août, on avait fait un bon mois. Vous avez reçu un mois qu'il fallait. Hein? Après, 7 000 balles chaque mois. Quand les problèmes ont commencé, vous avez reçu 1 000 balles de moins. C'est-à-dire 6 000 balles le mois d'avant. Ce mois-ci, 5 000 balles. Et maintenant, Tofir, quand il a tapé du poing sur la table, il m'a dit, il me faut de l'argent, il me faut 2 000 balles. 2 000 balles pour moi et mes collègues. Moi, je suis allé voir le banquier m'a dit, bon, prends 1 000 balles et dégage. Si vous ne voulez pas venir travailler demain, vous ne venez pas travailler.
Nous avons tous patienté. On a voulu, bon, c'est pour la société, surtout pour nous tous, quoi.
Mais la société, elle vous demande un sursis d'une semaine. Une semaine. Même pas une semaine, on est mardi. Elle vous demande un sursis de mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours. Lundi, ça fait 6 jours. Et mardi, vous avez votre salaire intégral.
Ah, mais non, on te prend mal à quoi, faut pas croire à ça. Hein.
Bon, fallait au moins un petit peu quoi, se rendre compte pour nous, parce que quand même,
bah, il y a
tellement de charges. Chacun a des soucis dans la vie.
J'ai passé l'après-midi chez le banquier. Mardi, vous avez votre salaire parce que vous avez un enfant et une femme, c'est tout. Et un salaire intégral de 9 000 francs. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et si je donne un centime de plus, je me fais... Alors là, je préfère me pendre au ciel. C'est tout ce que je peux faire. Parce que ton fils, je le connais, je veux dire, non, comme moi, si je l'avais fait.
Non, non, je veux dire, tu as présenté la situation, comme quoi...
J'écoute ce que tu dis, mais je te...
On est au bord du gouffre, voilà, parce qu'on t'a demandé 1 000 francs chacun, et on va mettre la société en danger.
On est dans une semaine critique, c'est tout. On est dans une semaine critique. Mais toi, je te connais, avec tout le respect que je te dois, parce que je t'aime beaucoup, ça compte pas beaucoup ce que tu dis, parce que t'es quelqu'un qui se met en colère facilement. Je te connais depuis février, puisque tu as démissionné pour venir travailler dans cette boîte, alors que tu avais vu les plans. Il n'y avait même pas de local quand ton fils est venu. Donc je compte pas beaucoup ce que tu racontes, parce que demain, tu es capable ce soir de me dire, je viens plus travailler, et demain t'es là. Mais Denis, c'est bon? N'écoute pas ce que dit ton fils, Denis. C'est bon? Fatri, toi, je te pose pas la question, tu déconnes pas.
Mais je déconne pas, je dis on fait avec, hein.
Voilà. Merwan, sauf que tu as pas 1 000 balles aujourd'hui. Gisèle, qu'est-ce que tu en penses?
Mais je vois pas pourquoi tout le monde, moi je dis pas ça parce que c'est pourquoi tout le monde serait payé entièrement mardi et pas moi.
Toi, tu n'es pas payé mardi entièrement?
Bah 6 non. 000 francs, mardi. Tu me donnes 6 000 francs, il me manque mon salaire de novembre, de décembre, 7 000 francs, plus le reste de mon salaire de novembre, 1 500.
Oui, donc ça fait 2 500.
Ouais.
Et 6 000 plus 2 500, ça fait 8 500.
Voilà.
Ah, c'est ça?
Bah oui, c'est ce que je dis.
D'accord, ok.
Moi, je resterai tant que tu seras honnête avec moi. Question sous et question travail. Question sous, on vient d'éclaircir.
Ouais, et malhonnête, question travail aussi?
Regarde, exemple. T'es arrivé tout à l'heure, tu m'as dit d'être quand parce que tu l'as appelé. C'était pas moi qui l'ai appelé.
Alors, une secrétaire simple, une petite secrétaire simple.
Ouais, pour les singes,
ça sent pas le coup.
Ouais, d'accord.
C'est soit la fille à seconde de type, soit laisse tomber.
Ouais, mais ce que tu comprends pas, c'est que pour les autres, je suis une secrétaire simple.
Bah, dis-leur que tu n'es pas une secrétaire simple.
Ouais.
Et là, bon, ces derniers jours-là, elle fait le maximum, hein, c'est vrai.
Oui, bravo. Et ton fils,
voilà.
Ça change beaucoup, toi, ce que tu es en train de dire en ce moment. Et ton fils,
pourquoi ça change?
Bah, tu arrêtes pas de dire ils font le maximum, ils font le maximum.
Bah oui,
tu arrêtes pas de me le dire, parce que ça m'a bordé.
Je veux pas dire qu'ils font le minimum.
Si ça vraiment va. Vous voulez être méchante, c'est ce qu'on en pense que partir n'aurait rien à dire.
Ça va, arrête de gueuler.
Mais pas, les
je gueule pas.
T'as trimé comme un fou.
Mais tu passes ton permis, comme ça tu m'en accompagnes.
Ouais, c'est ça.
Non, tu rigoles pas, c'est
je vais les livrer.
Ça va être pas arrêtez de faire les cons et puis on va s'en sortir.
Il ben, y a 1000 balles pour chacun. Et tant pis, c'est 100 balles pour lui. Et demain, je vais prendre un truc qui s'est fumé. Aïe, et tu m'invites à prendre un pot. Allez, on s'en va.
Voilà, ça se passe comme ça dans le cinéma.
C'est avant ou après le film? Si c'est ça le problème, les deux. Avant, pendant et après. Si, bon, pour démarrer, sauf si tu veux dire quelque chose par suite. J'ai une question là qui apparaît fort, mais que il me semble avoir réagi déjà à ça. C'est l'histoire des gros plans. Il y a énormément de gros plans sur les visages. Et c'est très impressionnant parce que très souvent, dans beaucoup de films, j'ai des souvenirs, quand j'avais appris les rudiments du film, c'était un peu ridicule à ce moment-là, on disait attention, plan général, plan moyen, puis plan rapproché. Ouais, c'était le béaba. Mais heureusement, on s'est un peu débarrassé de ça, surtout dans l'ordre. Mais là, il y a une intention très forte d'être vraiment sur les personnes, d'être dans les visages, dans les visages et dans l'échange des visages. On voit pas la situation générale, par exemple. On la voit pas là. Mais c'est pas du tout un reproche. Moi, ça me dérange pas du tout. Mais c'est un choix. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus?
Ben, c'est vrai de la séquence dans le bureau, c'est pas vrai de la séquence dans la cuisine où on voit les. Bien sûr, ça vient dans cette séquence vraiment de l'ambiance de film noir, c'est-à-dire que les visages cadrés comme ça, avec un peu des vêtements et tout, on était beaucoup plus dans ce qui se passait réellement entre eux, c'est-à-dire l'impression d'être dans un groupe où il y avait du danger, où on risquait de ne pas avoir de fric, on risquait de se retrouver sur le carreau, où il fallait faire pression, on avait peur, où c'était tout ce côté presque, enfin, à la limite du voyou, quoi, enfin, en tout cas, d'un rapport de force difficile et tout ça. Ça se sent dans les costumes. J'avais l'impression que chacun, son visage et son costume, étaient dans l'argent, etc. Que ça donnait cette impression-là. Et que si j'avais fait un plan plus large, ça aurait accentué peut-être la précarité, mais c'était aussi désigner plutôt comment dire, faire une description plus sociale et moins dans le rêve dans lequel chacun était, quoi. Voilà. Oui.
Deux questions techniques. Est-ce que tu avais une perche? Est-ce que les choix de cadre sont définis aussi par le rapport au son, peut-être?
Non, il y avait une perche, oui.
D'accord.
Et la deuxième... Et DHF, d'ailleurs, aussi.
Ah oui, tout. Non, la question qui me vient quand je vois, c'est est-ce que le choix de... c'est un Marocain, je crois. Est-ce que ce choix-là était important parce qu'il traite beaucoup les choses par l'oralité et c'est fort pour les situations. Peut-être que...
Le patron, qui est tunisien.
Tous ensemble, on est vraiment dans l'oralité, là. Ça me paraît très intéressant. Et peut-être que dans d'autres boîtes, ça se traiterait plus par courrier interposé, ou alors aujourd'hui, je ne sais pas. Mais est-ce que ce choix-là, c'était important pour vous, que ça se traite un peu à l'oriental comme ça, ou c'était par hasard, quoi?
Oui, moi, je ne le voyais pas tellement oriental. Je voyais bandit, quoi, aussi, dans le côté... quand j'étais venue ici, j'avais montré un extrait de Mean Streets, où on voit... exactement une scène qui ressemble beaucoup à des scènes de coûte que coûte. Donc c'est plutôt le côté on fait un groupe, On est un groupe qui résiste à l'adversité. On est dans la précarité, il y a de l'argent. On a vite fait de devenir presque des voyous là. Donc, bien sûr, le fait que... Ce que moi me touchait beaucoup dans l'histoire, c'est qu'il y avait Djihad qui était tunisien et qui vivait en France depuis son enfance, je pense, mais qui n'était pas né en France. Deux autres Tunisiens et un Marocain, et Gisèle qui était française. Voilà. Donc il y avait cette idée aussi de l'Amérique, quoi. C'est-à-dire, c'est comme on est des enfants ou des émigrés et on fait notre boîte dans le nouveau pays, quoi. On fait notre nouveau pays en faisant une boîte. C'est surtout ça. Donc là, je pense que quoi qu'il arrive, il y avait ce rapport-là, cette oralité, comme vous dites, qui est pas qui, à mon avis, est plus lié à la précarité qu'à l'Orient.
Lié à l'urgence aussi.
Oui,
l'urgence, précarité, là, oui. Précarité, oui. Urgence, tension, ce qui amène un peu...
Enfin, moi, j'ai vécu ça avec des producteurs français. C'était un classique. Comment ? Je lui dirais, ça lui fera plaisir.
Mais ça ramène à l'idée surtout du film noir. De toute façon, c'est bien ça. C'est la tension, la pression, l'urgence, le climat de l'immédiateté des actes, du rapport entre un acte donné et les relations entre les personnes. On sent très bien, et c'est ça qui m'a intéressé dans ces plans rapprochés, c'est précisément, c'est qu'on a une situation, et cette situation s'exprime parfaitement bien, sans qu'on voit la totalité des gens, ni le lieu, ni rien. On sent la tension, une tension qui n'est pas seulement une tension interpersonnelle, mais une tension qui est liée à l'action menée, à l'entreprise en cours. Quelle que soit l'action, effectivement, on se partage le fric d'un coup, ou bien on essaye de trouver l'argent pour. Il y a une tension dans laquelle la bande s'explique à elle-même.
Oui, et puis le fait qu'il y ait du liquide, de l'argent liquide, c'est évidemment quelque chose qui a à voir avec une précarité et le fait de le voir. Et il y a quelque chose aussi d'un peu sale qui est intéressant, quoi.
Puis il y a une incertitude aussi, une incertitude de... Bon, ce mois-ci, oui, le mois prochain, non. On n'est pas dans une administration qui gère des revenus permanents. On est dans des coûts dont l'avenir est incertain et dépend de l'investissement de chacun et de la capacité de persuasion et la force de persuasion du chef en question, quoi, qui apparaît comme tel, là, petit capitaliste, qui commence d'ailleurs bien en front, je prends la place d'un autre. C'est intéressant parce qu'il y a un point de vue. Il me semble que vous prenez une certaine distance par moment, il y a une certaine ironie dans beaucoup de films d'ailleurs, à l'égard de la situation. C'est pas une adhésion nécessairement de votre part. C'est un regard porté avec de temps en temps des failles, des choses presque critiques, je dirais.
On ne peut pas filmer une situation si on y adhère, je pense. C'est pas possible.
Oui, c'est ça, comme, une distance nécessaire.
Le médecin ne peut pas soigner s'il adhère à la plainte de son patient.
C'est ça, exactement. C'est
pas que je me considère comme un médecin pour, en étant en train de filmer, mais en tout cas, l'adhésion n'est pas possible. Enfin, sinon, on fait de la publicité ou du militantisme, mais ça n'a rien à voir.
Non, là, c'est une proposition. Voilà ce que je vois. Et cette proposition est faite au spectateur, qui est libre, qui se sent libre de voir ou de ne pas voir ou d'interpréter autrement le cas échéant, ou de questionner, surtout de questionner, je crois. Ça qui est intéressant dans la plupart de vos films, c'est que on les voit et on a des questions qui émergent. Questions sur les gens, sur les choses, sur la situation. Toutes les réponses ne sont pas données.
Mais ce qu'il y a, c'est que, disons que ce n'est pas une entreprise extraordinaire, c'est une situation très singulière, comme toute entreprise, et une de mes inquiétudes venait de là. C'est-à-dire que quand on fait un documentaire, aussi, il y a cette question de la représentativité de ce qu'on filme, de est-ce que c'est la bonne boîte, est-ce que c'est la bonne histoire, etc. Et comme mon système est sans doute très paresseux aux yeux de certains, c'est-à-dire que je filme les gens et les situations que je rencontre et que je connais par la vie et pas celles que je vais chercher sur des plans statistiques ou journalistiques, etc. Et peut-être je pourrais le faire. Hein, c'est... voilà, par exemple, Nicolas Philibert, quand il tourne Être et avoir, il cherche pendant 6 mois l'école dans laquelle il va tourner. Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais du coup, je suis obligée de pallier par la mise en scène à cette inquiétude que je pourrais avoir que ça n'est pas forcément le meilleur cas, la meilleure, que c'est simplement le cas que je connais. Ou qui m'est proche. Et du coup, je travaille plus sur ce que c'est pour les gens de vivre ça, c'est-à-dire aussi d'être confrontés eux aussi à cette idée de la représentativité hors de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, comme à l'époque je disais ça pour présenter le film, ce ne sont pas des gens, ce n'est pas un film sur l'économie, c'est un film sur des gens aux prises avec l'économie, quoi. Donc en tant que n'importe qui, ils sont aux prises avec la question de cette boîte, de est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va couler, de est-ce que ils vont continuer à avoir un boulot. Donc le déplacement, il est là par rapport à, disons, une attitude télévisuel qui consisterait à dire, parce que c'est une question qui est sans cesse reposée, quoi, de la représentativité. On avait écrit à l'époque, on était plusieurs réalisateurs de documentaires et on s'était associés dans une association qui existe toujours qui s'appelle ADOC, et on avait fait un texte, un manifeste pour la représentation contre la représentativité, quoi. Voilà, donc c'est ça, cette question. C'est-à-dire, moi, je me disais, c'est plus... N'étant pas sûre que j'étais dans la boîte la plus représentative, la plus spectaculaire qui soit, je pouvais au minimum montrer ce que c'était pour chacun d'entre eux que de vivre cette scène-là, de ne pas avoir été payé, d'avoir eu le courage dans une si petite entreprise et d'être pas sûr de le tenir, d'obliger le patron à aller à la banque, de se faire engueuler pour avoir même pas tout son salaire, de voir l'argent apparaître, de pas oser gueuler parce qu'il a pris 400 balles dans l'argent qu'il a ramené pour boire un coup et que donc ils ont pas tout ce qu'il a même promis et de pas oser le dire, etc. Comme par exemple Madani, quand il dit qu'il faut voir qu'on a des charges aussi, ce qui est une langue d'économie qui n'a rien à voir avec dire comment je fais pour... Enfin, il est obligé tout d'un coup de parler comme s'il était patron de sa vie. Voilà. Donc il y a cette peur qui est organisée, gérée, etc. par la situation. Voilà. Moi, j'ai essayé de m'occuper de ça dans la mesure où je trouvais ça très fort et quand même, ça me rappelait des scènes que je connaissais, quoi. Voilà.
Dans les deux extraits qu'on a vus des deux films, en fait, j'ai remarqué que vous prenez souvent la parole dans des moments d'action. Et je voulais savoir si c'était quelque chose de vraiment intentionnel ou bien est-ce que, par exemple, vous avez aussi fait des entretiens plus figés, assis, où on dit « raconte-moi ton histoire » et qu'après, vous ne l'avez pas utilisé au montage, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites jamais ?
Moi, je l'ai fait dans Les Patients. À un moment, oui, à la fin. Mais alors, je dirais qu'en tant que metteur en scène, entre guillemets, c'est-à-dire que je suis pas sûre que c'est la meilleure façon de diriger quelqu'un en tant qu'acteur, puisque chacun est acteur. C'est difficile de jouer assis comme ça, sans sombrer dans un certain narcissisme. Ou... C'est plus difficile. Moi, c'est juste des artifices pour que les gens soient plus justes, plus proches d'eux-mêmes. Je fais pas exprès. Là, par exemple, quand il va à la banque, il est tellement stressé qu'il dit... Vous voyez, là, il parle et on comprend rien. Donc moi, je suis juste là pour dire à qui, comment, quel argent, à qui tu demandes, ça va servir à quoi, etc. Je fais juste du complément de scénario pour que le spectateur comprenne quelle est la scène qu'on est en train de filmer, quoi. Parce que c'est une des façons de résister, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la personne que vous filmez, qui est de vous parler à vous et pas au spectateur, quoi. Et on doit tout le temps guider l'air de rien, mais sur une scène, amener la personne qui est en train de parler à être sur une scène, quoi. Mais dans l'action, c'est plus intéressant, je trouve, que de façon plus... Mais parce que je pense que de la même manière qu'on joue dans la vie, on joue, enfin, chaque personne réelle joue dans un film. Il y a des gens qui sont plus ou moins bons. Il faut les aider à être bons, quoi. Et le fait de ne pas être bon, c'est souvent lié à la timidité, à la gêne, au fait de sauter dedans, etc. Enfin, ça, c'est des trucs idiots, de la palisse, quoi. Mais donc, plus l'action, plus la relation est... existe, plus le désir de la personne que vous filmez, qui est-ce qui vous intéresse, a une chance de franchir les obstacles de la timidité, de la gêne, etc. Moi, au fond, la seule chose qui m'intéresse, c'est le désir de la personne que je filme. Et je veux me trouver dans une situation où ce désir puisse s'exprimer, ne soit pas entravé et qu'il puisse y avoir la forme de la personne, la forme de sa langue, la forme de sa manière d'être, quoi. Tandis que quand vous mettez quelqu'un assis sur une chaise, à moins que ça soit vraiment son truc, quoi, c'est rare que cette forme devient plus difficile à atteindre.
Claire, tu vois cette porte ? Il y a bien longtemps, j'avais 20 ans. Et il m'a fallu beaucoup de courage pour la franchir. J'avais rencontré mon premier amour. C'était une femme. Ça m'avait quand même posé un gros problème de conscience. Parce qu'à l'époque, j'étais pratiquante, je croyais en Dieu. On m'avait tellement dit que c'était un péché. Et j'ai eu beaucoup de chance, en fait. Je suis rentrée, j'ai poussé la porte. J'ai rencontré un moine et je lui ai dit j'ai un problème. Et il m'a dit, vous voulez vous confesser? J'ai dit non, pour moi c'est pas un péché ce que j'ai à vous dire. Donc je lui ai dit que j'aimais une femme, que je découvrais la vie, que j'étais heureuse, que... Et il a été super. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait vivre les choses qu'on avait à vivre, si on était en accord avec soi-même. Il m'a dit que souvent c'était les hommes qui jugeaient. Bien sûr, il m'a mis en garde que j'aurais pas d'enfant, que je prenais un chemin difficile. Donc je suis partie de là et j'étais heureuse. J'étais sur un petit nuage. C'est un très beau souvenir, ça. Ça a été le début de... de ma vie, quoi, vraiment. C'est comme s'il m'avait... j'avais besoin, quelque part, de... de l'autorisation au bonheur, quoi. Jardin de cimier, jardin des fleurs, moi je l'appelle. À côté, c'est le jardin des oliviers où il y a le festival de jazz. Chaque année, on l'entend, je pense. Avec qui je vivais dans les années 70. Souvent au mois de mai, elle me disait, viens, on va voir les roses. Et un jour, elle m'a offert un rosier. Elle m'a dit, je t'offre un rosier, ça sera toujours ton rosier. Et c'est le troisième rosier de cette allée. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est la dernière fois où j'écris au Père Noël, je crois. Quand je dis écrit au Père Noël, c'est que on s'était juré de vieillir ensemble, quoi. Enfin, pour nous, c'était évident. C'était... Donc, toujours, vous savez, j'y croyais au toujours. Parce qu'en fait, je reviens au Père Noël. C'est vrai que le Père Noël, quand j'étais môme, je croyais au Père Noël et j'ai cru jusque tard, je crois. Et c'est vrai que le Père Noël, pour moi, c'était... Bah, c'était le Père Noël, hein, comme tous les mômes, quoi. Mais je commandais toujours... toujours la même chose. Chaque année, je commandais un âne.
Un quoi ?
Un âne. Je me voyais sur l'âne, et puis l'âne... Alors, c'est vrai que ma mère, elle me racontait que le Père Noël venait avec un âne. Le soir, en attendant le Père Noël, on mettait une coupelle de lait avec une carotte pour l'âne du Père Noël. Et moi, je voulais pas l'âne du Père Noël, je voulais un âne pour moi. Et c'est vrai que le fait de pas avoir de jouet le matin de Noël, je flippais pas là-dessus. J'étais toujours un peu triste et que un peu déçue, quoi. C'est que j'avais pas d'âne, quoi.
Je ne sais pas si on... Il y a quelques... pris comme ça, on dirait que tout est préparé, ce qui n'est pas vrai, quoi. C'est absolument pas préparé. C'est-à-dire que le principe, c'était que je filmais des lieux dans lesquels... Alors là, c'est évidemment l'église qui est en face de l'entrée du festival de jazz à Cimiez. Mais ça a démarré un peu tard, donc on ne voyait pas que c'était l'église qui est très belle du monastère de Cimiez. Mais c'est juste... je pense qu'à ce moment-là du film, on a compris qu'on est dans des lieux où on ne sait pas... dont on filme plusieurs facettes, comme là, l'église, le jardin avec les roses, etc. Et des souvenirs viennent... prendre corps ou pas. Enfin, et c'est moi ce qui m'intéressait, c'était que je voulais pas du tout faire le portrait de Mimi, mais plutôt que ces souvenirs qui ressemblent toujours à des qui sont des scènes, comme la scène du moine, comme la scène de je te donne le troisième rosier là. Comme la scène de le matin de Noël, l'âne du Père Noël, la coupelle, etc. C'est très concret, ce sont comme des scènes de cinéma. C'est pas du tout de l'opinion, du sentiment, de... Voilà, c'est extrêmement concret, quoi. J'essayais de trouver des lieux. Enfin, je filmais dans des lieux... avec Mimi qui était là, en attendant que la mémoire surgisse en elle, quoi. Voilà. Donc là, je me fais le reproche dans ce qu'on a vu, que la précarité de ce souvenir ne se sent pas forcément. J'espère que quand on a vu le film depuis le début ou plus tard, on comprend, mais c'est un reproche que je me suis fait, qu'on comprenne bien que c'était vraiment le hasard, tout le temps, qui faisait ça. Que c'était jamais calculé, préparé, pensé. C'est ce qui surgissait à ce moment-là.
Oui, mais ça, je crois justement, et c'est ce qui m'avait frappé beaucoup dans ce film, que je dois dire, je ne suis pas une fan de dire encore que je l'aime beaucoup. Non, je ne l'aime pas du tout.
Non, mais.
Voilà, c'est grave.
Donc. Fait du bien pour continuer.
D'abord, cette thématique de sur l'émergence du désir, qui est quand même tout à fait passionnante à suivre. Et à suivre précisément suivant une ligne un peu, si c'est le moins qu'on puisse dire, ouais, sinueuse, avec des brisures, des cassures, des reprises. Et que je crois le filmage traduit bien ou exprime bien, je ne sais pas si j'allais traduire ou exprimer, les deux à la fois d'ailleurs, ça dépend des moments. C'est précisément, on est dans des lieux qui ne sont pas nécessairement ceux dont on va parler. Et même en dehors, presque, je me demande, je ne me souviens plus exactement, mais je crois qu'en dehors de l'église proprement dit, la plupart des autres lieux entraînent des souvenirs qui n'ont pas de rapport ou des évocations qui n'ont aucun rapport avec le lieu.
Voilà.
Notamment, par exemple, quand vous êtes au bord de la mer, à la plage, etc., elle parle de son enfance, de choses comme ça, je crois bien. Ça n'a aucun rapport. Et c'est encore plus significatif, je trouve. Parce que. On n'est pas n'importe où, on est quelque part. On n'est pas dans une rêverie, on n'est pas en train de rêver entre deux personnes. Non, elle est quelque part, elle est dans ces lieux. Et c'est ces lieux, sans doute, qui évoquent pas mal de choses chez elle et chez vous, j'imagine, et qui lui font parler. Parler et de façon apparemment désordonnée, mais en fait, finalement, On a une vraie biographie. On a son histoire, même si on n'a pas les détails et qu'on ne comprend pas très bien ce qu'elle fait, ni pourquoi elle est là, et etc. Mais on a quelque chose qui paraît essentiel. Qu'est-ce que c'est que cette femme ? Qu'est-ce qu'elle a vécu ? Et non pas les événements. On s'en fiche des événements, proprement dit, d'une certaine façon. Sauf quand elle leur donne une signification.
Non, on s'en fiche pas des événements parce que c'est ça qu'elle raconte.
Oui, elle raconte ça.
Très bien, comme des scènes de cinéma. Non, dans chaque lieu, ça s'origine toujours. Toute la mémoire s'origine dans quelque chose dans ce lieu. Simplement, ce n'est pas toujours quelque chose qui a du sens. Ça peut être un son, ça peut être une couleur, ça peut être quelque chose qui passe. C'était cette idée d'une espèce de... pour arriver à raconter le roman d'une vie ordinaire. Et aussi l'oubli inévitable. Et le fait que la mémoire chez Mimi de ces scènes, donc chez cette personne, il n'y a pas toujours des gens qui ont une telle... mémoire des scènes et qui les ressasse. Parce que au début du film, je crois que je l'ai pas gardé dans le film, non, voilà. Parce qu'au début, c'était pas très facile. J'avais cette idée qui m'était venue simplement d'une conversation avec elle où elle avait raconté, elle était venue dîner chez nous et elle avait raconté. Toute la vie de sa mère, et c'était un espèce de film extraordinaire où on voyait toutes les scènes. J'avais l'impression de voir, je sais pas, autant n'importe le vent, un truc, c'était mieux d'ailleurs. Mais bon, donc je me disais, je voyais tout le temps, on voyait que des scènes, on voyait tout. Donc c'est de là que je suis partie. Et donc quand j'ai entrepris l'idée, Mimi. Je l'ai entrepris de cette idée de faire le film et qu'on a commencé à tourner en pellicule, tout ça, donc ça coûtait quand même cher et tout. Et ça ne marchait pas, donc c'était assez angoissant. Pendant 2-3 jours, ça ne marchait pas. Et une des choses qui a commencé pour amorcer le travail, c'est que donc elle avait été malade beaucoup parce qu'elle a été très très pauvre dans son enfance, donc très mal nourrie, etc. Donc elle avait un problème des os et elle avait par moments été, elle pouvait pas marcher, voilà. Et moi j'ai fait ce film aussi dans cette urgence que ça ne lui revienne pas, ça. cette impossibilité de marcher. Et donc, elle disait, mais quand j'étais allongée, quand j'étais obligée d'être allongée, j'ai essayé d'écrire mes souvenirs, enfin, d'écrire mes souvenirs, quoi. Et quand je les relisais, ça ne me faisait rien. Et elle dit, voilà, la différence, c'est quand je raconte, je revis. Quand je raconte mes souvenirs, je revis la scène. Ce qui est à la fois la définition d'un acteur, si vous voulez, et en même temps, on pourrait dire une lutte contre la disparition, contre l'oubli, contre la mort, d'une femme qui n'a pas d'enfant aussi. Donc, quelque chose qui est cette façon de ressasser, enfin, là, on n'a pas du tout l'impression d'un ressassement, mais disons d'une présence continuelle des scènes de la mémoire comme des scènes du roman personnel, comme une lutte très grande contre la mort, contre l'oubli, alors que dehors, la vie ne fait qu'oublier continuellement, quoi. Et que donc c'était ça mon propos, de filmer cette contradiction entre le souvenir précis, dessiné, que le spectateur allait voir en suivant cette parole, et ce qui s'efface en continu, les histoires des vies de tout le monde qui sont passées là, mais qui, où toujours ça disparaît, quoi, continuellement. Donc voilà.
Oui, je crois qu'on est. Enfin, moi j'étais fasciné par ce problème du temps dans le film, c'est-à-dire que. On a une trajectoire qui a l'air d'être une trajectoire d'isolement progressif. Elle s'éloigne progressivement de tout, presque, et elle perd ses proches jusqu'à sa mère qu'elle emmène. Et en même temps, il y a une présence extraordinaire de tous les instants de sa vie. Ses souvenirs sont présents. Il y a une sorte de présentification. Elle vit pas dans le passé, c'est pas ça. Le passé. Il y a un présent constant.
Voilà, elle revit, quoi.
C'est ça. Elle est dans un présent constant. Et ça, c'est très impressionnant. Et je crois que, parfois, le décalage entre ce qu'elle dit et les images constitue un élément de compréhension de cette présence permanente du temps.
Oui, oui. Tout à fait.
On est au temps présent. Et voilà, le temps présent, c'est aussi un mélange des lieux.
Et il n'y a pas du tout, chez elle... Bon, évidemment, c'était ma lutte permanente qu'il n'y ait jamais la moindre expression de sentiment ou d'opinion. Mais il n'y a pas un côté « c'était mieux avant, j'aimais mieux ». C'est absolument pas ça, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est juste le fait de revivre.
Revivre, c'est ça. On est dans la situation, on est dans le vécu.
Revivre.
Dans le vécu constant.
Choses cauchemardesques aussi, mais revivre.
Ouais, ouais. On va prendre très rapidement une ou deux questions parce que le temps passe et je voudrais quand même qu'on voit les bureaux de Dieu.
Est-ce que c'est vous qui filmez ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de prises de risques. Et donc ça, c'est toujours la question de comment on affirme ses choix. Quand est-ce qu'on glisse ? Quand est-ce qu'on revient ?
Oui, mais je ne peux pas déléguer le cadre, quoi qu'il arrive. Ben non, parce que il faut qu'il y ait une présence. Enfin, je veux dire, le plan, il se fait quand on le fait. C'est pas un programme prévu à l'avance. Moi, je change tout le temps, même en fiction, ce que j'ai prévu de faire, à peu près, quoi. Enfin, je veux dire, selon ce que je ressens du jeu de l'acteur ou de la personne ou de la situation. Et puis, il y a quelque chose de maladroit chez moi qui persiste et qui est peut-être... Quand on a édité ce DVD de mes premiers films, il m'est venu, enfin, quand on en discutait avec Annick Peignet-Julie, qui les a édités, de documentaires sur grand écran. J'ai arraché ces films à leur inexistence. Ils sont en Super 8, le son est pourri. Enfin bon, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose pour moi qui quand même revient contre ma volonté d'un sentiment qu'il faut que ça, que c'est pas que je l'arrache à l'inexistence. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, et que même quand les trucs sont bien organisés, etc., je me débrouille pour rendre ça plus maladroit, mais parce que je ne sais pas si je vais pas tout changer, si je vais pas, parce que j'ai absolument besoin d'être complètement avec ce que je suis en train de filmer au moment où c'est en train d'arriver. Et avec aussi un sentiment très fort de ma maladresse, que je souffre, hein. C'est pas que je trouve ça super, mais du coup peut-être ça fait que le spectateur sent comment je regarde, enfin que c'est une façon de filmer qui indique le regard du réalisateur, quoi.
Qui indique quand c'est pas bon, on va aussi.
Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ça dit tout ça. Voilà, oui.
Et c'est que celui qu'on filme aussi peut lui aussi être dans une maladresse et ne pas savoir comment il, comme vous l'avez dit, il joue sa vie, son rôle.
Voilà, absolument. Ouais.
Bon, je m'excuse.
Attends, là, vous voulez dire quelque chose?
Mais, très vite, parce que.
Dit, ouais. On filme pas ce qu'on adhère ou je dis mal, excusez-moi.
Ouais.
Pourquoi vous n'adhérez pas là?
Non, ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez filmer l'adhésion, ce serait. Oui, voilà, il faut qu'il y ait une scène. Dans l'adhésion, il n'y a pas de scène, quoi. Vous voyez, il faut qu'il y ait un espace. Une scène, c'est un espace.
Oui, il faut qu'il y ait des chemins à parcourir.
Il faut qu'il y ait...
des questions à se poser.
Si on est dans une... L'adhésion, c'est forcément un peu hystérique, quoi. C'est-à-dire qu'on va coller complètement à l'autre... et essayer d'être l'autre, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc, quoi. Je veux qu'il y ait de l'espace pour que quelque chose soit visible. Parce que dans ces cas-là, rien n'est visible. Souvent, quoi. Enfin, on éprouve, mais c'est pas très... Il n'y a pas d'espace pour qu'une scène ait lieu. Là, il y a de l'espace entre elle et moi, entre ce que je filme et ce que... Il y a même parfois énormément d'espace, puisque je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle parle là, et devant la porte du monastère et tout ça. Et de la même manière que les gens qui sont là, dans les scooters, se demandent, ne savent pas trop ce qui se passe, etc. Voilà.
Et peut-être cette notion d'espace nous permet de passer justement...
Un espace clos.
Un espace clos, oui, une série d'espaces clos, avec les bureaux de Dieu. Vous voulez dire quelque chose, deux mots, pour introduire un peu pourquoi les bureaux de Dieu?
Le titre,
non pas pourquoi le titre, mais pourquoi le film?
C'est un film qui m'a été apporté par une demande. Un jour, des gens du planning familial de Grenoble m'ont demandé, ils voulaient que je réalise, enfin ils avaient proposé à plusieurs réalisateurs de fiction de faire des petits films de propagande ou d'information à l'intention des jeunes. Et moi, j'ai dit « Ok, mais je veux venir passer un peu de temps au planning, comprendre, voir, etc. » Donc j'ai été passer 3 jours au planning de Grenoble. Et là, j'ai vu tout à fait autre chose. J'ai pas voulu faire des films de propagande, mais j'ai dit qu'il y avait un film à faire qui était ce qui se passait dans ce lieu, qui m'apparaissait comme 40 ans après les luttes pour le droit à l'avortement et à la pilule, etc., disons, le contre-champ de l'amour. Voilà, on voyait ce lieu un peu secret, en haut d'un immeuble, des femmes et des hommes, mais surtout des femmes, recevoir des jeunes filles et des femmes, quelques hommes, en train de se demander quoi faire après avoir aimé, quoi. Ou avant, ou comment faire avant d'aimer. Et je trouvais très beau le rapport, enfin l'écoute des conseillères, ce que les filles et les femmes venaient raconter, l'écoute des médecins, leurs discussions entre eux, la vie de ce lieu, quoi, qui me paraissait pas se retrouver dans le mot planning familial et dans tous les mots techniques et sociaux qu'on balance dessus pour ne pas trop en entendre parler. Contraception, planning familial, IVG, machin, tous les pensant que c'était que, comme on dit, les filles des quartiers, etc., machin. Voilà. Moi, je voyais tout à fait autre chose. Et on ne peut pas filmer quelqu'un qui ne témoigne pas, qui ne veut pas témoigner. Les filles et les femmes qui viennent au planning ne veulent absolument pas témoigner. Elles viennent la plupart du temps dans un désir de secret ou d'intimité, parler avec une autre ou d'autres de ce qui leur arrive, ou demander un soin, enfin un médicament ou un soin. Pour arriver à filmer cet échange, je pouvais pas, enfin ça n'avait aucun sens de demander aux gens s'ils acceptaient d'être filmés, ce que j'ai quand même essayé de demander une ou deux fois, mais c'était ridicule. Moi, je voulais filmer cette parole. Et du coup, j'étais devant un documentaire magnifique que je ne pouvais pas tourner. Et donc, j'ai décidé de faire les choses en deux temps. Enfin, ça m'a pris assez longtemps de concevoir le truc. Mais j'ai décidé que je leur ai proposé d'enregistrer avec du son. Et j'ai choisi aussi d'aller dans plusieurs plannings et d'enregistrer le son, quoi, des entretiens, des repas des conseillères, de tout ça, de le décrypter, de monter un film sur papier et puis de le mettre en scène en fiction. Voilà, en gros, ça m'a pris un certain temps de concevoir cette idée, surtout de concevoir la distribution, c'est-à-dire que ma volonté était vraiment de dire que c'était une histoire de toutes les femmes, donc de tous les hommes aussi, que ce n'était pas une histoire purement sociale, etc. Et puis que c'était le contre-champ de l'amour, quoi, de la beauté, de... voilà. Et donc, c'est par là que se sont imposées les actrices professionnelles, parce que j'aimais l'idée qu'on les reconnaisse, qu'elles soient belles, comme sont les femmes du planning, qui sont toujours belles, apprêtées, etc. Mais qui avaient quelque chose qui a à voir avec aussi, enfin, dans sa traduction en cinéma, les femmes belles, les actrices, etc. Ben, c'était l'autre côté de la scène, ce qu'on ne voit pas dans la scène d'amour, ce qu'on ne voit pas. Voilà, donc c'était intéressant aussi qu'il y ait les actrices pour ça. Évidemment, c'était surtout, a priori, j'ai établi un système qui était les professionnels du planning, enfin, les conseillères seront jouées par des actrices connues, des acteurs connus, donc des professionnels qui sont repérés immédiatement comme professionnels par les spectateurs. Et tous les gens qui viennent au planning, qui sont appelés dans le langage du planning le public, seront joués par des inconnus et elles ne se rencontreront que dans la scène. Elles se verront jamais avant et elles ne sauront pas qui tourne avec qui ni quoi. Voilà, c'était ma manière d'essayer d'arriver à faire ce documentaire en fiction. J'ai essayé de... voilà, le film est un documentaire tourné en fiction avec l'idée de la fiction qui prend le pas de plus en plus dans le film pour raconter aussi ce que c'est que ce travail, enfin ces femmes-là au travail, etc. Voilà.
Vous avez quel âge?
J'ai 17 ans.
Qu'est-ce qui a fait réagir comme ça votre mère à votre avis?
Franchement, je sais pas.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Vous voulez que je vous dise les mots? Elle m'a dit que j'étais une salope, que je me tapais tous les mecs, tous les copains qui tapaient à la porte, que j'étais une chienne, que j'étais la reine des putes, et voilà.
Elle t'a déchaîné, là.
Je sais pas, avant on en parlait. Elle m'a acheté des préservatifs et tout.
Ah bon? Elle vous achète des préservatifs? Ça veut dire qu'elle était d'accord pour que vous ayez des relations. Non?
Si.
En fait, là, c'est parce que vous l'avez dit que...
Que je risquais d'être enceinte.
Voilà, alors c'est ça qui l'a fait enrager comme ça.
Ouais, voilà.
Ça veut dire que vous êtes capable d'être mère, vous aussi. Alors, si vous pouvez dire « je suis enceinte », ben, c'est une autre étape. Alors, est-ce que c'est ça qu'elle a pas pu accepter?
Je sais pas. C'est inattendu, sa réaction. De toute façon, ma mère, je la déteste.
Depuis?
Ah, mais je la déteste depuis longtemps, mais là, je la déteste encore plus.
Qu'est-ce que vous la faites détester comme ça?
C'est la violence. C'est toujours de ma faute. C'est toujours moi qui ai tort.
C'est elle qui se déchaîne, mais c'est... Vous n'y êtes pour rien.
Ouais. Enfin, je me rebelle aussi. C'est ça qui est pas bon. Je suis trop...
Quoi?
Un peu.
Vous la laissez pas dire?
Non, je laisse pas parler. De toute façon, j'ai même pas envie d'entendre ce qu'elle dit.
Mais il y a des tensions de votre famille?
Ouais, c'est... C'est trop compliqué.
Trop.
Bah, c'est ouf. C'est... Disons qu'au début, mon père, il voulait pas de moi. Et après... Après leur mariage, il a tenu que 5 ans, jusqu'à ma 5e année. Et puis après, ils ont divorcé. Bon, c'est vrai aussi que ma mère a pas une vie facile, donc...
Oui, c'est elle, en fait, qui vous a... voulu.
Ouais, c'est ma mère qui m'a voulu.
Et votre père, maintenant?
Mon père, je le vois une fois tous les 6 mois.
Vous avez envie de le voir?
Ouais, souvent j'ai envie de le voir. Mais il est tout seul. Et bon, une fois, je lui ai demandé. C'est il y a un an maintenant, je lui ai demandé. Et j'attends encore.
Vous lui avez demandé quoi?
Je lui ai demandé si on pouvait pas se voir tous les deux. Petit après-midi, à discuter et tout. Mmh. Et je sais pas, il m'avait dit qu'il me rappellerait. Il m'a jamais rappelé.
Et c'est important pour vous de parler avec lui?
Je sais pas si c'est bien de parler avec mon père. Il est pas très sérieux.
Pourquoi ça veut dire que pas très sérieux pour vous?
Il est pas sérieux, quoi. Mais il a fait cocu ma mère et c'est pour ça qu'ils ont divorcé. Et je sais pas, parler de sexualité ou de choses comme ça avec lui.
Ah bon?
Non. Bon. Quand on en parle, il me dit des mots qui me choquent, je sais pas.
C'est... Ah bon, vous trouvez qu'il prend ça trop à la légère?
Non. Non, mais j'ai l'impression que... Non, je sais pas. Il dit les choses sèchement.
Ah ouais, mais peut-être par pudeur. Non?
Je sais pas.
Non. Vous pensez pas que votre père pour... Non, pour être pudique?
Non, un jour il m'a emmené en vacances sur une plage de nudistes et il s'est mis complètement nu devant moi, donc...
Ah, mais on peut faire du naturisme et être pudique. C'est pas un sentiment, le naturisme. Enfin bon, en tout cas, ça vous a pas... Non, ça vous a pas aidé à vous rapprocher de lui?
Non.
Avec les mots, en tout cas.
Non, ça nous a éloigné encore plus, en fait.
Dommage.
Alors, le problème, c'est que c'est des vraies conversations.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vraie conversation, en l'occurrence? C'est des conversations auxquelles vous avez assisté et qui ont été retranscrites.
Que j'ai enregistrées.
Que j'ai enregistrées et qui sont là jouées.
Oui.
C'est ça. C'est ces conversations elles-mêmes qui sont jouées.
Oui, qui sont raccourcies.
Oui, qui sont remontées, j'imagine, peut-être, effectivement, mais jouées par... Des actrices professionnelles.
Ah oui, à la virgule près, c'est exactement.
Les intervieweuses sont connues, les autres sont des actrices aussi, oui. Mais donc qu'on ne connaît pas. C'est tout. Donc c'est un film de fiction à partir du réel.
Voilà.
C'est ça.
Voilà.
Et alors, non, il y a dans le film, en dehors de ces moments-là, il y a des moments de détente où on voit les actrices, les vraies actrices connues, notamment, entre elles. Alors là, c'est
oui, c'est la vie de l'association. C'est à l'intérieur de... Donc c'est... on voit la vie du lieu, la vie, ce que c'est que de bosser dans un lieu, à quoi, de quoi on dit, un peu de quoi on discute, ce qu'on fait, etc. Il y a aussi quelques activités autres, comme quand il y a des jeunes qui viennent d'un lycée à qui on montre comment, c'est quoi un préservatif, la consultation gynécologique, etc. Et voilà, le principe étant effectivement que disons qu'au début, quand j'ai vu qu'il y avait un documentaire très beau à faire mais que je ne pouvais pas le faire, ce qui m'a chagriné dans mon idée, c'était de recopier la réalité en faisant une fiction. Et puis... au fil du travail, etc., j'ai compris que c'était sans doute, disons, le degré zéro de la fiction, ou que c'était à partir de là qu'on pouvait commencer... Enfin, que partout, toutes les questions étaient extrêmement fortes et intéressantes de mise en scène, de choix des acteurs. Ne serait-ce qu'un truc très simple, vous voyez ces plans, encore une fois maladroits, mais qui ne coupent pas, puisque en fait, je faisais les entretiens tels qu'ils ont lieu au planning, c'est-à-dire que, Nicole, elle va chercher, on le voyait, elle va dire un nom dans la salle d'attente, ou Nathalie Baye, ou Béatrice Dalle, ou voilà, elles disent un nom, et quelqu'un apparaît qu'elles ne connaissent pas, et on fait la séquence en un seul plan jusqu'à la fin. Et donc, c'est un plan séquence de champ contre champ, ce qui est une contradiction totale, puisqu'on ne peut pas faire ça, quoi. Donc c'est pour ça que je suis obligée. Mais si on prend Délit flagrant de Raymond Depardon, où on a au milieu, on a les deux, le prévenu et le substitut du procureur, qui sont à distance égale, comme ça, de part et d'autre. Le profil nous dit que c'est du documentaire. On sait que c'est vrai. Je veux dire, on sait que ça a lieu devant nous. Moi, par exemple, je ne pouvais pas filmer ni les deux en même temps, ni de profil, parce que c'était de la fiction. Et que il fallait que l'autre manque... et de se mettre à l'intérieur de la scène comme ça, pour restituer quelque chose de vrai qui n'était pas en train de faire du faux documentaire, quoi. Le faux documentaire aurait été de les filmer de profil. Voilà. Et ça, ça aurait été du mensonge. Et j'étais devant ces questions-là en permanence. De la même manière que c'était des femmes que j'avais vues, et que ce soit les conseillères et les filles et les femmes qui venaient consulter, et que donc alors pour les conseillères, ça a été comme le casting de personnages dans un film de fiction. Pour les autres, toutes celles qui venaient, c'était aussi ça, mais donc il s'agissait de retrouver quelque chose de la personne que j'avais vue, transfigurée par la personne qui jouait. Et là, c'était très différent que si ça avait été du documentaire. J'étais obligée de... On arrivait toujours à la fin du casting avec un choix de deux personnes. Et il y avait toujours pour un rôle... Et il y avait toujours la version documentaire et la version fiction, quoi. Et on prenait la version fiction. Parce que ce que le spectateur complète dans le filmage documentaire n'est pas la même chose que ce que le spectateur complète. Enfin, je veux dire que ça peut être éblouissant de voir quelque chose qui a vraiment lieu devant nous, qui est réel, qui est documentaire. Et cette même personne peut être terne dans une optique de fiction. Enfin, moi, par exemple, quand je trouvais des gens qui étaient absolument ressemblants aux gens que j'avais vus, mais qui ne portaient pas le texte aussi bien, quoi. Enfin, voilà, grosso modo. Mais leur sonne.
Leur sonne, mais justement, j'ai quand même une petite remarque, alors qui va me permettre de revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé du tout, qui était vos points de départ avec la peinture. Et il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à ce que vous disiez sur Vermeer. Il me semble me souvenir que vous disiez plus ou moins que Vermeer peint sa femme, mais sa femme, c'est une femme.
Ouais.
Et que là, il y a un projet un peu de cette, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mm. C'est le même projet que la peinture, c'est-à-dire dans ce film... C'est des femmes, des actrices, etc., mais c'est aussi des femmes au général.
Oui, c'est ce que fait le cinéma, oui. Disons, mais c'est ce qu'on pourrait oublier, quoi. Oui. C'est-à-dire que le proche devient le lointain.
Oui, c'est ça.
Que ce qui est... c'est comme ça que je me suis défendue quand je me sentais attaquée d'avoir filmé la première histoire d'amour de ma fille, c'est que je disais ben, c'est pas ma fille et non. Son copain, c'est un jeune homme c'est et une jeune fille.
Un jeune homme et une jeune fille.
Voilà. Et c'est ce que nous apprend la peinture, hein. La peinture fait que ça.
Ouais.
Et je pense que le cinéma aussi, si on veut.
On veut.
Si on le veut.
Voilà. Bon, écoute, je suis désolé qu'on s'arrête là parce qu'on pourrait encore durer sans, même si tu es trop fatigué. Et on te remercie infiniment pour avoir surmonté tes souffrances et pour nous apporter tes interprétations de tes images. Merci infiniment.
Merci à vous.